Merci. Donc ce soir, nous allons ouvrir un autre des livres de cette grande bibliothèque qu'est la Bible. Et ce livre, nous allons le chercher chez les prophètes. Il s'agit du livre d'Osée, le premier livre dans le premier livre des 12 petits prophètes. Donc Osée est un prophète, c'est-à-dire qu'il va présenter les caractéristiques de tout prophète. C'est non pas de dire l'avenir, comme on le pense des fois par l'utilisation qu'on en fait dans le langage courant, mais c'est de parler au nom de Dieu. Le prophète parle au nom de Dieu et pour cela, il va écouter et il va regarder. Il va porter un regard sur le monde qui va être le regard de Dieu, c'est-à-dire qu'il va voir la réalité de ce qui l'entoure au-delà de l'aspect premier qui peut apparaître. Il va essayer de creuser pour en voir la réalité profonde qui dit les relations qui peuvent exister entre les hommes ou entre Dieu et les hommes. Alors, Osée est un prophète du 8e siècle. C'est la grande période de la prophétie et c'est une période qui arrive donc après le schisme en Israël. Vous le savez, la monarchie unifiée en Israël a duré moins d'un siècle. Elle a émergé avec le roi Saoul, puis David et Salomon. Et à la mort de Salomon, le royaume se divise en deux, au nord Israël, au sud Juda. Donc Osée est un prophète du nord. Il va prophétiser vraisemblablement entre 750 et 723. Donc, plusieurs différences existent entre le royaume du sud et le royaume du nord qui vont permettre de comprendre le message que donne Osée. Donc, le royaume du sud, c'est le royaume de Juda. Il a la capitale, il a Jérusalem, donc il a le temple. Par contre, c'est une contrée où le climat est difficile. On a des régions semi-désertiques, donc le royaume est pauvre. Au contraire, le royaume d'Israël, au nord, bénéficie d'un climat meilleur. On a des plaines qui sont fertiles en Israël, comme la plaine de Israël ou bien les collines verdoyantes de Samarie. Il a une ouverture sur la mer. Par contre, il n'a pas Jérusalem, donc il n'a pas le temple. Et par ailleurs, donc dans cette région d'Israël, la région d'Israël est assez dominée par la culture cananéenne qui précède l'installation des tribus. Donc cette culture était marquée en particulier au niveau religieux par des rites qui vont diviniser les forces de la nature. Des rites qui sont censés apporter la fécondité à la terre, aux troupeaux, aux hommes. Et en particulier, on entendra parler à plusieurs reprises des dieux Baal, Baal qui sont souvent symbolisés par le taureau. Et on comprend, donc, dans ce peuple d'agriculteurs, la tendance et la tentation qu'il va y avoir à faire du syncrétisme en mélangeant ces traditions et cette religion ancienne, qui est une religion finalement attirante, puisqu'elle est censée apporter la fertilité à la terre, donc apporter des ressources à ses cultivateurs, et de la mélanger avec le culte rendu à Yahvé. D'ailleurs, ça commence par le roi Jéroboam, donc le premier roi d'Israël, qui, comme il n'a pas le temple, va faire construire deux sanctuaires à ses frontières, l'un au nord, à Dan, l'autre au sud, à Bethel, où il va faire construire, donc il va faire ériger des statues de taureaux qui vont être censées accueillir la présence de Dieu, comme l'Arche de l'Alliance à Jérusalem accueillait la présence de Dieu. Donc ça va susciter la colère des prophètes qui parleront avec mépris du veau de Samarie. Bien, alors on arrive au livre d'Osée. Le livre d'Osée commence par un mariage, mais un mariage un peu particulier. Le Seigneur dit à Osée, « Va, prends-toi une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en se détournant du Seigneur. Il alla prendre Gomer, fille de Divlaïm. Donc ce mariage se fait à l'initiative de Dieu. Osée répond, il fait ce que Dieu lui demande, il épouse Gomer, mais on ne sait absolument rien de la façon dont il peut ressentir ce message, ni de la réaction de Gomer. Le mariage se fait. Ce qui est intéressant de noter, c'est « car le pays ne fait que se prostituer en se détournant du Seigneur ». Donc dès le début du livre, on voit le parallèle qui est fait entre le mariage d'Osée et la conduite d'Israël qui se tourne de son Dieu. Alors une précision, une lecture qu'il ne faut pas faire, ce serait lire ce récit comme une parabole, c'est-à-dire juste comme un récit édifiant qui ne mettrait finalement, qui n'impliquerait pas Osée. Non, Osée a vraiment vécu ce mariage, parce que comme, enfin, il y a d'autres prophètes aussi qui ont vécu dans leur vie personnelle le message qu'ils délivraient, comme Jérémie qui est resté célibataire, Ézéchiel qui a été veuf. Donc la réalité de leur vie n'est pas contestée, il n'y a aucune raison de contester celle d'Osée, d'autant plus que nous le verrons, le langage qu'il utilise sort de ses tripes. Il montre bien que ce qu'il dit, il l'a vécu. Donc Osée épouse Gomer et de ce mariage vont naître des enfants. Dieu intervient là encore pour donner le nom qu'il faudra donner à ses enfants. Alors l'aîné, c'est un garçon. Dieu dit, tu lui donneras le nom de Israël, car encore un peu de temps, et je sévis contre la maison de Yéhu, à cause du sang versé à Israël, et je mettrai fin à la royauté de la maison d'Israël. Donc là, il est fait allusion à un épisode qui s'est passé une centaine d'années avant la période correspondant à Osée, le roi Jéroboam II, donc qui est le contemporain d'Osée, dont l'arrière-grand-père, Jéhu, avait massacré la famille royale régnante pour usurper sa place. Ça rappelle aussi que dans le royaume du Nord, les dynasties se succèdent par coup d'État. Il n'y a pas de succession instituée comme dans le Sud. C'est un peu violent. Et donc Dieu, lorsqu'il ordonne de nommer le fils aîné Israël, quelque part, il dit à travers ce prénom qu'il retire son soutien au royaume d'Israël. Chaque fois que les parents de Israël prononceront le nom de son fils, de leur fils, tous ceux qui sont autour entendront cette prophétie. Dieu retire son soutien à Israël. Deuxième enfant, c'est une fille, et cette fois-ci, le Seigneur dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ruhama, c'est-à-dire pas aimé, car je n'aime plus la maison d'Israël et ne veux plus lui pardonner. Si Dieu ne pardonne pas, c'est qu'il retire sa protection. Donc, chaque fois que cet enfant sera appelé, tout le monde pourra entendre que Dieu retire sa protection divine à Israël. Troisième naissance, encore un garçon, et cette fois-ci, le Seigneur dit, donne-lui le nom de Lo-Ammi, c'est-à-dire pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi, je ne suis pas pour vous. Je ne suis pas pour vous. Ça rappelle le nom de Dieu qui est révélé à Moïse. Donc, chaque fois que cet enfant sera appelé, tout le monde pourra entendre que c'est la relation privilégiée qui s'est révélée dans le nom de Dieu et sur laquelle le Seigneur revient. Ça remet en cause toute l'histoire de Dieu avec Israël, ça remet en cause toute la révélation. Donc quelque part, les pauvres enfants, avec les prénoms dont ils ont attribué, ils vont contribuer à ce que la famille d'Osée vive dans sa vie familiale, une distance avec le monde qui l'entoure. On peut facilement comprendre que si on appelle ses enfants Hiroshima, Cataclysme et Holocauste, les gens auront un peu du mal à tisser des liens avec cette famille. Donc elle se met en retrait et elle vit dans sa vie la distance que Dieu vit avec son peuple, comme on l'a dit au début, puisque le peuple s'est détourné de son Dieu. Alors est-ce qu'on s'en arrête là ? Non. il y a une promesse qui est donnée, donc à la fin de ces versets, le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer qu'on ne peut ni mesurer ni compter, et il arrivera qu'à l'endroit où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Ah, donc dans un futur, Dieu est prêt à revenir surtout sur ces noms qu'il a fait attribuer aux enfants d'Osée. Les fils de Juda et les fils d'Israël se réuniront, ils se donneront un chef unique. Donc là, alors c'est pas un roi, hein. Osée ne porte pas beaucoup la royauté dans son cœur, donc c'est un chef unique. Les deux nations de Juda et d'Israël seront réunies et seront vainqueurs dans la plaine d'Israël. Dites à vos frères, amis mon peuple, et à vos sœurs, Rouama, bien-aimés. Donc on a un renversement total de la situation. Les enfants qui étaient dont les prénoms annonçaient le malheur, un jour porteront des prénoms qui rediront la relation renouvelée entre Dieu et son peuple. Alors on continue à suivre le texte, et cette fois-ci on quitte donc cette promesse pour revenir à la vie de Osée et de sa femme Gomer. Et s'annonce vraisemblablement un procès, et un procès de divorce. Faites un procès à votre mère, faites-lui un procès, car elle n'est pas ma femme, et moi je ne suis pas son mari. Qu'elle éloigne de son visage les signes de sa prostitution et d'entre ses seins les marques de son adultère. Sinon, je la déshabillerai et la mettrai nue, je la mettrai comme au jour de sa naissance, je la rendrai semblable au désert. J'en ferai une terre desséchée, je la ferai mourir de soif. Ses enfants, je ne les aimerai pas, car ce sont des enfants de prostitution. Oui, leur mère s'est prostituée, celle qui les conçut s'est déshonorée. Ce texte est dur. Alors, il ne faut pas en faire une lecture qui aurait une approche féministe et qui dirait « le texte nous présente un traitement indigne pour les femmes par rapport à celui qui est donné à l'homme ». Non, ce n'est pas ça le message du texte. Certes, il faut le resituer dans son contexte, donc 8 siècles avant Jésus-Christ. Il est imprégné de la culture ambiante, mais le message qu'il nous dit, ce n'est pas une condamnation de la femme par rapport au mari. D'ailleurs, vous verrez dans la suite du texte qu'il n'y a aucune inégalité sur ce plan-là. Le mot important, c'est « sinon ». Sinon. Donc la menace, en fait, est prêt à revenir sur la menace qu'il fait, puisqu'il y a un échappatoire. Qu'elle éloigne de son visage les signes de sa prostitution, si elle change de comportement, rien de tout ce qui est annoncé n'arrivera. Donc finalement, c'est plutôt qu'une condamnation, c'est montrer là où peut mener la conduite de cette femme. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est que si on regarde qui est le sujet, a priori c'est Osée le sujet, et la personne condamnée, la personne accusée, c'est Gomer. Mais si on remplace Osée par Dieu et Gomer par Israël, le texte prend un autre sens. Et à ce moment-là, on voit que c'est également une menace, mais c'est la menace que Yahvé fait envers son peuple s'il ne change pas de conduite. Ce texte aussi, dans sa dureté, il nous dit certainement la souffrance qu'a éprouvée Osée dans l'infidélité de sa femme. Et il nous dit que l'infidélité, finalement, c'est grave, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire aujourd'hui. Alors je vais faire une parenthèse pour venir sur quelques notions qui sont nécessaires pour comprendre la suite du texte. Alors on va parler de l'alliance, je vais le faire de façon très schématique, c'est-à-dire que je ne vais pas tout dire de l'alliance, ça sera forcément restreint, mais c'est juste ce qui est nécessaire pour comprendre la façon dont les relations s'établissent entre Yahvé et le peuple d'Israël. L'alliance, ça va servir à qualifier la relation qui existe entre Dieu et Israël. S'il y a une relation, il va falloir la dire avec des mots et avec des mots humains. Donc pour cela, dans la Bible, on va utiliser les catégories des relations humaines, donc des relations commerciales, des relations des relations politiques, des relations familiales, conjugales. Et on va utiliser, un des termes qui sera utilisé pour dire cette alliance sera le terme de Bérite, qui va dire une structure normative qui règle les rapports entre les parties qui s'y engagent par un serment scellant une promesse solennelle de fidélité réciproque. Donc, cette définition, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Elle peut nous dire que s'il y a un engagement, c'est forcément qu'il y a une liberté des parties qui s'engagent, Dieu et Israël. Chacun garde sa liberté dans cet engagement, fidélité réciproque. Donc, il va falloir, si on est fidèle, il faut bien être fidèle à quelque chose. Et là, ça veut dire qu'il va avoir une fidélité à un projet commun, et que ce projet commun, il faut qu'il soit régi par une loi pour pouvoir savoir si on est bien fidèle. Ce projet commun pour Israël et Dieu, ben c'est le salut d'Israël, c'est la promesse de salut à Israël. Donc dans ce projet, chacun reste lui-même, comme dans une alliance entre des hommes ou des groupes d'hommes, chacun reste lui-même et garde sa place dans le respect de ce qu'est l'autre. Alors, le respect de ce qu'est le Seigneur, qu'est-ce qu'il est? Il est celui qui donne la vie, il est celui qui est le sauveur. Donc dans l'alliance, il restera toujours celui qui donne la vie et celui qui est le sauveur. Israël, il est le peuple élu, il restera toujours le peuple élu dans l'alliance, et ça lui confère des responsabilités. Ensuite, il est question de justice, parce qu'il faut que Dieu emploie sa justice pour maintenir cette alliance, pour gérer cette alliance. Et la justice de Dieu ne sera rien d'autre que la mise en œuvre de l'alliance. Et comme l'alliance est le projet de salut, ben la justice de Dieu, elle est ordonnée au salut. La justice de Dieu, elle est faite pour le salut. Lorsque Dieu juge, c'est pour sauver. Il faut une loi, donc la loi, c'est la loi qui a été donnée à Israël, les commandements, et cette loi, elle est structurante, et elle va permettre à Israël aussi d'agir dans la justice, de travailler à la justice vis-à-vis des peuples qui l'entourent et vis-à-vis de ses propres membres, et à des relations ajustées. Alors vous me direz, mais Dieu, il est tout-puissant, et Israël, il est faillible. Donc finalement, c'est une alliance un peu déséquilibrée. Mais c'est là qu'intervient Dieu, qui va s'impliquer dans l'alliance, et en particulier, il va, entre autres, envoyer les prophètes. Donc ils vont être un peu ceux qui vont titiller Israël pour lui rappeler sans cesse cette alliance et ce projet commun. Donc deux dangers pour Israël, ça va être la rébellion en disant on n'en veut pas de cette alliance, ou bien une mauvaise compréhension. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les notions de la prostitution. Quand on parle de la prostitution dans la Bible, ça veut dire autre chose que l'infidélité ou des relations sexuelles débridées. Alors, vous me permettrez d'utiliser l'image qu'utilise Osée lui-même, c'est-à-dire qu'on va représenter Dieu par un homme et le peuple d'Israël par une femme. Donc, dans l'idolâtrie, première façon d'être idolâtre, c'est se détourner de Dieu pour se tourner vers des idoles. Des idoles qui peuvent être des statuettes, mais bien plus souvent, ça peut être des réalités qu'on va idolâtrer, des réalités qui peuvent être bonnes en elles-mêmes, ça peut être le pouvoir, l'argent, la sensualité. Mais dès lors qu'on en fait un absolu, on en fait une idole. Donc, cette manière d'être idolâtre, elle est liée au désir, et puis elle est liée à la représentation de soi, parce que ça veut dire qu'on se détourne de Dieu parce qu'on n'a pas confiance en lui, on n'a pas confiance dans le salut qu'il peut nous apporter. Donc, c'est partir de soi et revenir à soi, finalement, c'est être idolâtre. Autre façon de voir l'idolâtrie, un peu plus subtile. Cette fois-ci, on ne se détourne pas de Dieu, mais on s'en fait une fausse image. Donc c'est une idolâtrie qui est liée à l'image et à la représentation de l'autre. Et là aussi, on part de soi, on revient à soi, parce que finalement, cette image de Dieu, c'est nous-mêmes qui nous la créons. L'alliance telle que va nous la décrire Osée, donc c'est bien l'éloignement d'Israël qui s'éloigne de Dieu. Alors si on en reste à la justice des hommes, l'alliance est rompue, chacun reste de son côté, et puis l'histoire s'arrête. Tout est terminé, on s'en arrête là. Si aucun des deux, si Israël ne revient pas, c'est fini. Dieu ne va pas rester là. La justice de Dieu, rappelez-vous, c'est la mise en œuvre du salut. Donc, pour sauver Israël, eh ben, pas d'autre solution que Dieu aille le chercher là où il est. Et c'est ce que va nous dire Osée. Donc, cette fois-ci, le salut, ben, il vient de Dieu et il implique en retour la réponse de Gomère, parce qu'il faut quand même qu'elle veuille à nouveau rentrer dans cette alliance, sinon on repart à zéro. Donc, continuons avec le texte d'Osée. On en était arrêté à l'accusation donc de prostitution. Et donc là, va arriver un procès. Un procès où on va avoir une accusation et puis une sentence. Donc l'accusation, elle est c'est la femme qui reconnaît ses torts. Je veux courir après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, c'est-à-dire les besoins indispensables, qui lui donnent sa nourriture de base, ma laine et mon lin, de quoi se vêtir, mon huile et ma boisson. Donc là, on est dans les produits de luxe, la boisson alcoolisée dont il s'agit. Et puis, première sentence, c'est pourquoi je vais obstruer son chemin avec des ronces, je l'entourerai d'une barrière pour qu'elle ne trouve plus ses sentiers, elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas, elle les cherchera et ne les trouvera pas. Alors elle dira, je veux retourner vers mon premier mari, bon, ça c'est la traduction de la Bible de Jérusalem, mais c'est vers mon premier homme, elle n'est pas mariée à nouveau, car j'étais plus heureuse alors que maintenant. Donc première réaction de l'homme vis-à-vis de sa femme qui court après ses amants, c'est de réduire sa liberté. Pour essayer donc de la garder à lui, il va réduire sa liberté. Donc si on lit ça en transparence, en voyant Dieu sous les traits du mari et Israël sous les traits de la femme, donc on comprend que ça s'adresse, enfin, on comprend donc que Dieu pourrait aussi réagir en restreignant la liberté d'Israël. Ce serait une façon de garder le peuple à lui. Mais là, c'est pas honorer l'alliance, puisque chacun doit rester libre dans cette alliance, s'il veut rester lui-même. Deuxième étape du procès, elle n'a pas reconnu que c'est moi qui lui donnais le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, qui lui prodiguait cet argent et cet or qu'ils ont employé pour Baal. Donc, eh ben, même si on restreint sa liberté, la femme ne reconnaît pas l'auteur qui est à la source des biens dont elle peut jouir. Et sentence, je reprendrai mon froment en son temps et mon vin nouveau en sa saison, je retirerai ma laine et mon lin qui devraient couvrir sa nudité. Donc ben, si elle comprend, si elle ne comprend rien, on peut retirer les biens puisqu'elle ne reconnaît pas d'où ils viennent, donc on peut le mari peut les reprendre. De même, Dieu peut retirer à Israël tous les biens qu'il lui a donnés depuis qu'une relation s'est établie entre eux. Je ferai cesser ces réjouissances, ces fêtes, ces néoménies, ces sabbats et toutes ces solennités. On comprend bien que là, c'est dans les fêtes que vit le peuple d'Israël dont il est question, et non pas des fêtes que pourrait vivre l'épouse d'Osée toute seule. Hein. Troisième étape du procès, je dévasterai sa vigne et son vivier, dont elle disait, ils sont le salaire que m'ont donné mes amants, j'en ferai un allié et la bête sauvage les dévorera. Je la châtierai pour les jours des bals auxquels elle brûlait de l'encens, quand elle se parait de son anneau et de son collier, et qu'elle courait après ses amants, et moi, elles m'oubliaient, oracle de Yahvé. » Donc là, c'est clair, c'est bien Dieu qui parle. Il parle et donc Israël n'a toujours rien compris. Il croit toujours que les biens dont il jouit lui viennent donc de ces dieux, de la, vous souvenez, les dieux qui, de la fertilité, donc ces dieux de Canaan, c'est eux qui sont à l'origine de la prospérité d'Israël et non pas le Seigneur. Alors là, ben, sentence, comment va réagir Dieu? Donc il nous dit, c'est pourquoi, donc à nouveau nouvelle sentence, c'est pourquoi je vais la séduire. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui rendrai ses vignobles et je ferai du Val d'Accor, donc le Val du malheur, une porte d'espérance. Là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait du pays d'Égypte. Donc tout est oublié. Il va la séduire, donc c'est un mot fort, ça veut dire la même chose qu'en français. Je la conduirai au désert. Donc il y a une initiative de Dieu qui va l'amener, qui va finalement la faire revenir à l'endroit où a pris lieu, où a débuté la relation entre Israël et le Seigneur. Donc c'est en Égypte, il va la ramener au désert. Et là, il va lui redonner tout ce dont elle peut bénéficier, et elle répondra. Donc le Dieu pardonne avant que le peuple ne revienne à lui. Il revient suite au pardon. C'est l'initiative de Dieu qui est première. Donc la miséricorde de Dieu, elle est première. C'est elle qui va chercher celui qui s'était égaré, la brebis perdue, dira le Nouveau Testament, avant qu'elle ne revienne à lui. Et s'ensuit une union nouvelle, donc on va lire rapidement ce très beau texte. Il adviendra en ce jour-là, oracle de Yahvé, que tu m'appelleras mon mari et tu m'appelleras plus mon Baal. Donc c'est un jeu de mots parce que mari en Israël, ça se dit Baal aussi. Donc tu m'appelleras plus mon Baal, tu m'appelleras plus mon maître. C'est-à-dire qu'on sera vraiment dans une relation d'alliance, on ne sera pas un dominant, un dominé. J'écarterai de sa bouche les noms des Baals et ne seront plus mentionnés par leur nom. Donc là, elle reconnaîtra qui est Dieu. Je conclurai pour eux une alliance, en ce jour-là, avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. L'arc, l'épée, la guerre, je les briserai, je les bannirai du pays et je les ferai reposer en sécurité. Donc Dieu va assurer la sécurité à Israël et pour lui assurer cette sécurité, il va conclure une alliance, mais cette fois-ci avec les animaux sauvages, de façon à ce qu'ils ne viennent plus nuire à Israël. Et de même, donc, il va détruire l'arc, l'épée, donc il va faire disparaître toute trace de guerre. Je te fiancerai à moi pour toujours. Donc bah, cette union, elle est pour toujours. Dans la tendresse et la miséricorde. Donc là, dans ces nouvelles fiançailles, pour toujours, il y a une dot qui est donnée, la justice et le droit, la tendresse et la miséricorde, la fidélité, et tu connaîtras Yahvé. Donc lorsque le peuple pratiquera la justice, le droit, la tendresse, la miséricorde, la fidélité, c'est là qu'il connaîtra Yahvé, c'est là que l'alliance sera renouvelée, c'est là qu'il pourra vivre tel qu'il est promis à être, et c'est là donc que l'union entre Israël et son peuple sera consommée, et c'est là, enfin, connaître Yahvé, c'est ça, c'est une connaissance intime, c'est une vie commune. Il adviendra en ce jour-là que je répondrai, oracle de Yahvé, Je répondrai aux cieux et eux répondront à la terre répondra au froment, au vin, à l'huile. Je sèmerai dans le pays, j'aurai pitié de l'Oruama et je dirai à l'Oami, tu es mon peuple et tu et lui diras mon Dieu. Donc on revient sur ce qu'il avait dit au départ. Toutes les promesses qui avaient été, enfin toutes les menaces n'ont plus raison d'être. Elles avaient été prononcées uniquement pour dire ce qui pouvait arriver si jamais Israël se détournait. Et c'est Israël, Dieu va la chercher. Donc il n'y a plus de raison de se détourner. Et le Osée retrouve sa femme et Dieu retrouve son peuple. Voilà. Donc on va lire. Donc ça, c'est les trois premiers chapitres du livre d'Osée que j'ai parcouru rapidement, mais je vous invite vraiment à les lire. C'est vraiment très beau. Et on va lire trois extraits. Alors on va sauter sur lui, sur le prêtre. J'ai eu pitié du prêtre. On va lire trois autres extraits donc, de ce livre qui nous disent d'une autre manière cette relation entre Dieu et son peuple, la façon dont la miséricorde de Dieu est vraiment une partie intégrante de l'alliance, de sa relation avec Israël. Donc là, cette partie-là, c'est justement une partie où il est dit beaucoup de... Enfin, où chacun en prend pour son grade, disons... Et donc Dieu menace de s'en aller. Je m'en irai, je retournerai chez moi jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et qu'ils recherchent ma face. Dans leur détresse, ils se mettront en quête de moi. Donc Dieu utilise par la bouche de Osée le stratagème des dieux de Canaan. C'était les dieux de la fertilité. Ils disparaissaient au moment de la période sèche et ils réapparaissaient au moment des périodes humides. Donc, si je retourne chez... Donc, bah, Dieu se dit, bah, je vais retourner chez moi et ils vont se mettre en quête de moi. Réaction du peuple, si Dieu s'en va, bah, peut-être qu'il va revenir à lui. Venez, retournons vers le Seigneur. C'est lui qui a déchiré, c'est lui qui nous guérira. Il a frappé, il pansera nos plaies. Au bout de 2 jours, il nous aura rendu la vie. Au 3e jour, il nous aura relevés et nous vivrons en sa présence. Efforçons-nous de connaître le Seigneur, son lever est sûr comme l'aurore, il viendra vers nous comme vient la pluie, comme l'ondée de printemps arrose la terre. Ben finalement, a priori, il revient, le peuple il se convertit, enfin c'est ce qu'il dit en tout cas. Réaction de Dieu, que vais-je te faire Éphraïm, que vais-je te faire Judas? Votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui passe, c'est pourquoi j'ai frappé par les prophètes, je les ai massacrés par les paroles de ma bouche. Et mon jugement jaillit comme la lumière. Car c'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. On l'a entendu ailleurs, hein, ça a repris par Jésus. On peut dire quel rapport en fait. Pourquoi il parle de sacrifice? Pourquoi parle-t-il d'holocauste? Il n'est pas question de ça dans le paragraphe précédent, dans les versets précédents. Eh bien si. C'est pas dit, mais si on regarde, en fait, la réaction, donc soi-disant, de retour du peuple vers le Seigneur, eh ben, efforçons-nous de connaître le Seigneur, mais ils le connaissent comment? Ils le connaissent en le voyant comme les dieux de Canaan. Son lever est sûr comme l'aurore, il viendra vers nous comme vient la pluie, comme l'ondée du printemps arrose la terre. Donc ils se trompent de Dieu, en fait. Ils veulent bien revenir vers lui, mais c'est pas vers le bon qu'ils reviennent. Donc Dieu leur dit que. Ce culte qu'ils peuvent rendre, eh ben, il n'est pas un culte en vérité, donc il n'a pas de sens à ses yeux. On continue donc avec une autre image pour dire la relation entre Israël et Dieu. C'est Israël reconnu comme le Fils. Alors Osée, c'est la première fois que l'image homme-femme... Osée, c'est le premier à utiliser cette image pour donner la relation entre Dieu et son peuple. Et c'est aussi le premier qui va utiliser cette image du fils pour le peuple. Le fils de Dieu, c'était utilisé pour le roi, mais jamais pour le peuple d'Israël jusqu'à présent. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. On ne va peut-être pas lire tout le texte parce qu'il est un petit peu long. Là, on est un peu pressé par le temps. Mais juste, quand Israël était jeune, je l'ai aimé et j'ai, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Dans ce texte, si vous le relisez, vous verrez qu'il y a plein de verbes attribués à Dieu et d'autres attribués au peuple, à Israël. Et les premiers verbes qu'utilise le Seigneur, c'est « je l'ai aimé et j'ai appelé mon fils ». Donc il nous rappelle toute l'histoire de salut d'Israël, en fait. Et l'histoire du salut, elle commence par l'amour de Dieu pour son peuple. Donc il rappelle aussi la façon dont Israël s'est écarté de lui en se tournant vers les Baals. Et il va utiliser des images d'une tendresse inouïe pour dire l'amour de Dieu pour son peuple. J'ai appris à marcher à Éphraïm. Éphraïm, c'est une des tribus du Nord. En le prenant par les bras, mais ils n'ont pas reconnu que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson contre leurs joues, et je lui tendais de quoi se nourrir. C'est vraiment très beau et très fort, en fait, d'aller jusqu'à imaginer Dieu comme un père qui prend tendrement son enfant dans ses bras. Voilà, on va conclure, et pour conclure, on va utiliser un dernier texte. Donc ce sont les derniers versets du livre d'Osée, et qui en fait résume tout le livre. Donc on va s'en servir pour conclure. Reviens donc Israël au Seigneur ton Dieu, car ta faute t'a fait trébucher. Prenez avec vous des paroles et revenez au Seigneur. Dites-lui, tu enlèves toute faute, accepte ce qui est bon. En guise de taureau, nous t'offrirons en sacrifice les paroles de nos lèvres. La Syrie ne peut nous sauver, nous ne monterons pas sur un cheval et nous ne dirons plus notre Dieu à l'ouvrage de nos mains, au toit par qui l'orphelin est pris en pitié. Donc cette fois-ci, Israël revient, mais revient pour de bon. C'est une vraie démarche pénitentielle, on pourrait dire qu'il fait. Il reconnaît sa faute et il reconnaît que Dieu est source de toute chose, de tout ce qui lui est donné. Et la réaction de Dieu, je les guérirai de leur apostasie, je les aimerai avec générosité. Ma colère s'est détournée de lui. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys et il enfoncera ses racines comme la forêt du Liban. Ses rejetons s'étendront, sa splendeur sera comme celle de l'olivier et son parfum comme celle du Liban. Ils reviendront ceux qui habitaient à son ombre, ils feront revivre le blé, ils fleuriront comme la vigne et on en parlera comme du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles ? C'est moi qui lui réponds et qui veille sur lui. Je suis moi comme un genévrier toujours ouvert, c'est de moi que procède ton fruit. Et là où Osée est vraiment gonflé, c'est qu'il utilise en fait pour dire Dieu le vocabulaire de la religion cananéenne, quoi, le vocabulaire de la nature, le vocabulaire de l'amour, et il va s'en servir pour dire d'une façon inouïe ce qui est vécu dans la relation entre Dieu et les hommes, dans la relation d'alliance qu'il leur est proposée. Qui est assez sage pour discerner ces choses et assez intelligent pour les connaître. Oui, les chemins du Seigneur sont droits et les justes y marcheront, mais les rebelles y trébucheront. Et bien, il y en a un qui a été assez sage et assez intelligent, c'est Osée. Osée qui a vécu dans sa chair cette histoire de trahison et d'amour renouvelé pour toujours.